bien sûr.
Je le savais.
Eureka.
Elles sont dotées de capacités étonnantes et jouent un rôle capital dans le développement des organismes, mais aussi dans le maintien de leur équilibre. Elles, ce sont les cellules souches. Découvertes en 1961, ces cellules sont aujourd'hui considérées comme des ressources thérapeutiques potentiellement infinies pour traiter des pathologies aussi différentes que certains cancers, le diabète ou encore certaines formes de surdité. Et cerise sur le gâteau, ces cellules souches sont des modèles idéaux dans de nombreux travaux de recherche fondamentale. On vous raconte donc aujourd'hui l'histoire de l'une des plus grandes promesses faites par la biologie. Cellules souches, les fontaines de jouvence, c'est le programme régénératif qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans Eureka. Et pour nous raconter ces histoires des cellules souches, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Lucie Laplane. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe de la biologie, chargée de recherche CNRS à l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à Gustave Roussy, au sein de l'unité d'hématologie. Nous sommes également en duplex depuis les locaux de France Bleu Hérault à Montpellier avec John DeVos. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'embryologie à l'Université de Montpellier et vous êtes responsable de l'unité thérapie cellulaire au CHU de Montpellier. Avant de démarrer notre discussion, on est en vacances, mais on va quand même rouvrir un petit peu nos cahiers de biologie, voire nos cahiers de vacances de biologie. Et on va faire quelques rappels. On commence par une archive de la RTF. C'était en 1962.
Lorsqu'on veut essayer de comprendre de quoi est faite la vie, c'est tout naturellement vers l'infiniment petit que l'on se tourne. Puisque tout notre corps est constitué par ces infiniment petits que sont nos cellules, douées chacune de caractéristiques dont nous sommes le total. La cellule, c'est en quelque sorte l'unité de vie. C'est à l'être vivant ce qu'est l'atome à la matière. Que sait-on de la cellule? Voici ce que nous raconte le microscope.
Autrefois, le biologiste se contentait de savoir que les organismes vivants étaient composés de cellules et que dans ces cellules, il existait quelque chose capable de donner le pouvoir de vie. Puis il a observé que les êtres faits d'une seule cellule, ces globules blancs du sang par exemple, possèdent tous les caractères des êtres plus évolués. Ils bougent, cherchent leur nourriture, ils s'assemblent pour dévorer en commun leur proie. Ils combattent, se défendent, ils sont même doués de mémoire. Le biologiste a appris aussi à cultiver en éprouvette des cellules humaines qu'il regarde vivre sous son microscope. Toutes sont faites d'une membrane entourant un milieu liquide, le protoplasme, au centre duquel se trouve un point noir, le noyau. Mais leurs formes sont étonnamment variées, allongées, rondes, cylindriques ou filiformes. Tout ce qui y vit est fait de ces cellules. Notre cerveau à lui seul en contient 14 milliards. Leur catalogue n'est pas terminé. Il tient déjà le volume de plusieurs gros dictionnaires.
Plusieurs gros dictionnaires qui se sont complétés depuis 1962. Lucie Laplane, on peut faire un petit rappel voilà, sur ce qu'on appelle cellule quand on parle d'un organisme vivant.
Cellule ou cellule?
La cellule, pour commencer.
Cellule, donc, alors, effectivement, les cellules sont les principaux constituants des organismes vivants. Que ce soit les plantes ou les animaux. Et comme ça a été très bien dit, c'est constitué d'un noyau dans un cytoplasme entouré d'une membrane.
John DeVos, on peut rappeler aussi que chaque type cellulaire a une fonction, une morphologie qui lui est propre. Il y a tout un bestiaire assez complexe.
Oui, il y a des cellules spécialisées qui font les différents organes. Et par exemple, les cellules de la peau vont constituer une cuirasse souple, avec d'extraordinaires propriétés telles que la sensibilité, le pouvoir suer, etc. Et en même temps, pouvoir perdre une partie de cette surface tous les jours. On perd des squames de peau. Et par exemple, si on fait la poussière dans notre chambre, on va retrouver une partie de la poussière, c'est la peau. C'est un phénomène physiologique. Et donc, on voit tout de suite qu'il y a un problème de régénération derrière. Mmh. Si on perd des cellules, il va falloir les régénérer derrière.
Alors c'est là qu'interviennent aussi du coup les cellules souches. On commence vraiment par un préambule assez simple de définition pour bien rentrer dans notre sujet. Lucie Laplane, comment est-ce qu'on peut définir à partir de cette définition des cellules les cellules souches et quels sont les points communs entre tous ces types de cellules souches dont on va parler?
Alors la définition la plus traditionnelle et classique des cellules souches, c'est des cellules qui ont la capacité de s'auto-renouveler, c'est-à-dire de produire d'autres cellules souches, et la capacité de se différencier, c'est-à-dire de produire les types cellulaires de l'organisme. En fait, il y a des cellules souches pour tous les tissus, donc on a des cellules souches qui permettent de produire les cellules de la peau, les cellules souches qui permettent de produire les cellules du sang, etc., pour tous les tissus de l'organisme.
C'est-à-dire, John DeVos, qu'à partir de toutes les cellules souches, on peut constituer un organisme. Elles ont un rôle moteur, un rôle premier dans la constitution de ce que nous sommes en tant qu'organisme complexe.
Alors, à la fois dans notre fabrication, hein, le développement embryonnaire, mais aussi le développement permanent, c'est-à-dire la régénération permanente. Par exemple, l'intestin, vous avez l'épithélium intestinal qui est renouvelé à 100% en 3-4 jours. Donc les cellules souches vont venir les restituer. Mmh.
Ce qui est important de dire aussi, c'est que toutes les cellules souches ne disposent pas des mêmes capacités de différenciation, Lucie Laplane. On parle de cellules souches unipotentes, multipotentes, pluripotentes, totipotentes. Expliquez-nous la différence entre chacun de ces types de cellules souches.
Alors, les cellules totipotentes sont celles qui permettent de générer un organisme complet. Dans un organisme humain, par exemple, il n'y a pas, à l'âge adulte, de cellules totipotentes. La seule cellule totipotente, c'est l'œuf fécondé. Mmh. Ensuite, les cellules pluripotentes sont celles qui permettent de produire tous les tissus qui constituent l'organisme, mais ils ne permettent pas de constituer l'organisme lui-même, parce qu'il leur manque la capacité à produire les annexes extra-embryonnaires. On parlera, j'imagine, plus des cellules pluripotentes, c'est celles qui sont mises en culture, les fameuses cellules souches embryonnaires. Ensuite, dans un organisme adulte, notamment dans l'espèce humaine, on a des cellules qui varient de multipotentes à unipotentes. Donc, par exemple, dans le sang, les cellules souches sont multipotentes parce qu'elles produisent toutes les cellules qui composent le sang, qui sont en grand nombre, alors qu'à l'inverse, par exemple, les cellules souches de muscles sont unipotentes parce qu'elles ne permettent de produire que des cellules de muscles.
John DeVos, est-ce qu'on peut, du coup, pour simplifier un petit peu cette classification, dire qu'il y a les cellules souches embryonnaires d'un côté et les cellules souches adultes de l'autre?
C'est une façon de simplifier, mais qui est tout à fait pertinente. C'est-à-dire que chez l'adulte, on va retrouver que des cellules souches qui sont spécialisées. Et donc, par exemple, les cellules souches sanguines, et on en reparlera, hein, qui permettent de faire les greffes de moelle osseuse, ne permettent pas d'envisager de réparer le cerveau, de réparer le muscle ou le foie, par exemple.
On parlera également aussi d'un autre type de cellules souches, des cellules souches pluripotentes induites. Ça, ce sera plutôt dans un second temps de l'émission, mais on peut peut-être en dire quelques mots déjà, Lucie Laplane.
Donc les cellules souches pluripotentes induites, comme leur nom l'indique, sont pluripotentes. Elles sont dérivées de cellules de tissu, par exemple, de fibroblastes, reprogrammées à un stade pluripotent. Et elles permettent ensuite d'être maintenues en culture, puis redifférenciées en différents types de cellules de l'organisme. Mais encore une fois, elles ne permettent pas la production d'un organisme complet.
Il y a tout un travail donc, de définition qui est assez complexe à réaliser quand on parle des cellules souches. Lucie Laplane, vous, c'est votre travail en tant que philosophe de la biologie d'affiner ce travail de définition. Expliquez-nous un petit peu les enjeux qu'il y a à définir aussi précisément que possible ces cellules souches.
Alors il y a deux types d'enjeux. Le premier, c'est de savoir quelles sont les cellules qu'on va appeler souches. Le second, c'est l'identification de ces cellules souches. Sur la question de qu'est-ce qu'on va appeler une cellule souche, la difficulté, c'est que ses propriétés d'auto-renouvellement et de différenciation sont d'une part différentes d'une cellule souche à une autre, et d'autre part, pas spécifiques aux cellules souches. Donc on va trouver des cellules qui ne sont pas souches et qui sont capables de s'auto-renouveler sur le long terme, c'est le cas de certains lymphocytes. Et puis on va trouver également des cellules qui ne sont pas souches, mais qui ont un grand potentiel de différenciation. Et donc la difficulté est de trouver une définition qui va permettre de distinguer ce qui est une cellule souche et ce qui n'en est pas à travers ses propriétés.
John DeVos, est-ce que c'est un constat que vous faites vous-même en tant que chercheur autour de cette difficile définition des cellules souches? Est-ce que c'est un constat auquel vous vous confrontez? C'est difficile de s'y retrouver entre les différents types de cellules?
Enfin, c'est difficile, mais en même temps, les définitions qui ont été évoquées sont assez robustes. Mmh. Ce qu'il faut bien souligner, c'est que c'est une définition fonctionnelle. Ça veut dire que on pourra pas, sous un microscope, voir si cette cellule est une cellule souche ou pas. Il va falloir la tester pour voir leur capacité de régénération éventuelle, pour voir si ou de renouvellement, de spécialisation, pour établir si c'est vraiment une cellule souche. Alors évidemment, en routine, on a des tests qui permettent de le faire et d'évaluer, par exemple, si un greffon pour une greffe de moelle osseuse est suffisamment riche en cellules souches sanguines ou pas.
Et c'est intéressant que vous parliez d'observation, puisque l'histoire des sciences a commencé en matière de cellules avec de l'observation. On va venir dans un instant.
France Culture, Eureka, Antoine Beauchamp.
On parle d'histoire des sciences dans Eureka, on parle d'histoire des cellules souches. Peut-être qu'avant de parler des découvertes des cellules souches, on peut remonter à l'origine de la théorie cellulaire, Lucie Laplane. L'observation a été capitale avec l'invention du microscope, notamment. On en parlait dans un épisode de la saison dernière d'Eureka. Rappelez-nous un petit peu quand même comment est-ce qu'on en est venu à décrire ces cellules et à comprendre leur fonctionnement. On peut remonter peut-être au XVIIe siècle avec les premiers microscopes et un certain Robert Hooke.
Alors effectivement, la première invention cruciale, ça a été celle du microscope par Robert Hooke, qui a permis l'observation des cellules. Mais entre l'invention du microscope et la théorie cellulaire, il y a encore un peu de temps qui s'écoule, parce qu'en réalité, la théorie cellulaire est produite en plusieurs temps au cours du 19e siècle. Le premier principe de cette théorie cellulaire, c'est l'idée que les plantes sont constituées de cellules, et ensuite l'observation généralisée que les cellules sont le constituant principal des organismes, également chez les animaux. Ça a été la première base de la théorie cellulaire. On est composé de cellules, principalement. Et la deuxième base, qui a pris encore un petit peu de temps avant d'être élaborée, c'est l'idée que ces cellules ne se produisent pas par auto-formation, mais par division cellulaire, et que donc chaque cellule provient de la division d'une autre cellule. Et ça, c'est un principe qui est devenu fondamental pour la biologie aujourd'hui. On ne pourrait pas comprendre la biologie aujourd'hui sans ce principe.
C'est la théorie cellulaire qui a mis fin à la théorie de la génération spontanée. Pasteur y a notamment largement contribué en mettant en culture et en étudiant la pourriture, par exemple.
Exactement.
John DeVos, si on avance un petit peu donc dans cette théorie cellulaire, donc on a compris qu'il s'est passé trois bons siècles entre l'invention du microscope et puis la compréhension du mécanisme des cellules. Le terme cellule souche en lui-même, il apparaît déjà à la fin du 19e siècle dans les écrits d'un certain Ernst Haeckel, qui est très célèbre pour ses magnifiques planches d'illustration de la diversité du vivant. Quel sens Ernst Haeckel donnait au terme cellule souche à la fin du 19e siècle ?
En tout cas, il y a la métaphore de l'arbre, c'est-à-dire que les cellules souches sont comme la souche de l'arbre, sont capables de régénérer l'entièreté de l'arbre. Alors évidemment, on l'a dit tout à l'heure, il y a des cellules souches capables de régénérer l'ensemble de l'organisme, même de créer des organismes, et puis des cellules souches plus spécialisées. Mais il y a cette notion de fabriquer les branches, les feuilles, c'est-à-dire tous les éléments spécialisés de l'organisme.
Lucie Laplane.
Oui, alors la particularité de cette première proposition de concept de cellule souche, ça a été que le terme a été utilisé par Haeckel pour désigner deux choses différentes. La première, c'était les organismes unicellulaires dont sont dérivés les organismes pluricellulaires. Et la deuxième, c'était l'œuf fécondé dont sont dérivés l'ensemble des cellules de l'organisme. Parce qu'il avait la théorie à l'époque que le développement récapitulait l'évolution des espèces. Et donc, cette cellule fécondée, c'était comme l'organisme unicellulaire dont proviennent les organismes pluricellulaires.
C'est intéressant parce que ça correspond aussi à une période où on comprend un peu mieux l'embryogenèse. C'est un peu les prémices aussi de la compréhension du développement d'un organisme à partir d'un œuf fécondé.
Exactement.
John DeVos, on avance maintenant un petit peu plus dans la découverte des cellules souches. Alors, à nouveau, on parle d'Ernst Haeckel, je crois qu'il y a eu d'autres usages du terme cellule souche après lui. Quels ont été les sens donnés à cette utilisation du terme cellule souche et comment est-ce que avant 1961, avant la découverte vraiment fondamentale pour les cellules souches, on comprenait ce concept-là?
Enfin, moi, je voulais aller directement à Till et McCulloch.
Alors, dans les années 60. Allons en 1961 au Canada.
Et là, la découverte, c'est de voir qu'il y a des cellules qui sont, quelques rares cellules qui sont dans la moelle osseuse. Vous savez, la moelle osseuse, dans tous nos os, fabrique le sang, sont capables de fabriquer des colonies constituées de tous les types cellulaires du sang, c'est-à-dire les globules blancs, les globules rouges, etc., les différents globules blancs. Et donc, ils vont appeler ces cellules des cellules souches parce qu'elles sont, ils peuvent démontrer que c'est une cellule unique au départ qui fabrique des centaines, voire des milliers de cellules avec plein de spécialisations sanguines. Et donc, c'est ce qu'ils vont appeler la cellule souche. Et ensuite, ces travaux-là vont aboutir à la notion qu'il suffit de transplanter ces cellules souches sanguines pour restaurer une moelle osseuse qui a été abîmée, par exemple par une irradiation d'un animal ou bien d'un être humain, hein, je pense à Hiroshima, par des radiations qui vont détruire la moelle osseuse. Et donc apparaît un nouveau traitement de ces moelles abîmées, la transplantation de moelle osseuse, et notamment des cellules souches sanguines qui sont cachées dans la moelle osseuse.
Ce qu'on appelle les cellules souches hématopoïétiques, pour faire intelligent. Lucie Laplante, c'est très intéressant ce contexte de recherche. On peut peut-être s'attarder un petit peu là-dessus. On est en 1961, il y a eu la bombe d'Hiroshima qui a été quand même un traumatisme majeur dans l'histoire de l'humanité. Et là-dessus, voilà, comment ces chercheurs, Thiel et McCulloch, s'inscrivent-ils dans ce contexte plus général historique?
Alors effectivement, il y a un contexte un peu plus long que ça, avec les recherches autour de la radiothérapie. Il y a une problématique de comprendre comment régénérer la moelle, problématique, et le sang, problématique qui devient vraiment forte avec la bombe atomique et de manière générale le développement des essais nucléaires, qui génère une peur et une urgence dans le développement de ces transplantations. Et donc, ils viennent ici apporter la première preuve expérimentale de l'existence de ces cellules souches hématopoïétiques, parce que avant eux, il y avait l'hypothèse qu'en fait, la capacité à régénérer le système hématopoïétique pourrait provenir d'éléments solubles présents soit dans la moelle, soit dans la rate. Et donc, ils apportent la première preuve expérimentale qu'en fait, ça vient des cellules et ça vient plus précisément des cellules souches hématopoïétiques.
John DeVos, quelle est la réaction à ce type de découverte? Est-ce que tout de suite, on perçoit les enjeux à la fois en termes de recherche fondamentale, mais aussi en termes de thérapeutique autour de ces cellules souches?
Oui, très rapidement, il y a une conjonction entre cette recherche-là et d'autres recherches pour soigner la leucémie. Et dès les années 50 et beaucoup plus dans les années 60, il y a la notion de greffe de moelle osseuse qui va émerger et très vite être mise en pratique. Au départ, avec beaucoup de difficultés, parce que on n'arrive pas à maîtriser la compatibilité entre donneur et receveur. Et puis très vite, on va pouvoir comprendre le système de compatibilité entre individus et on va pouvoir faire des greffes de moelle osseuse de plus en plus efficaces. Et dès les années 70, ça rentre dans une certaine routine. Et à partir des années 80, c'est vraiment la routine.
Les années 80, on y vient. Alors, les cellules souches hématopoïétiques sont découvertes en 61. En 81, il y a une autre découverte majeure, Lucie Laplante, celle des cellules souches dites embryonnaires. Là, c'est des équipes à la fois à Cambridge, en Angleterre, mais aussi en Californie, qui mettent au jour ces cellules souches embryonnaires. Quelles sont les différences entre cellules souches embryonnaires et cellules souches hématopoïétiques qu'on décrivait juste avant?
D'un point de vue historique, c'est vraiment deux lignes de recherche qui ont été complètement indépendantes, bien que les deux démarrent grosso modo avec la biologie cellulaire. Ouais. Mais les recherches sur les cellules souches embryonnaires sont beaucoup plus liées à la question du développement, contrairement aux cellules souches hématopoïétiques qui ont été des recherches toujours liées à l'organisme adulte. Donc les cellules souches embryonnaires sont des cellules qu'on ne retrouve que pour l'espèce humaine, et pour les mammifères en général, dans l'embryon, à une phase précoce. Et l'histoire de cette découverte est très liée entre l'embryologie et la cancérologie. En réalité, c'est l'observation des tératocarcinomes, qui sont des cancers qu'on trouve dans les testicules ou les ovaires, et qui ont des types cellulaires très différents. On peut retrouver des cheveux, des dents. Et c'est l'étude de ces tératocarcinomes qui a mis en évidence la présence de cellules souches pluripotente, capable de produire ces différents types cellulaires, qui a été en parallèle, qui a permis l'identification de cellules souches également embryonnaires dans les embryons de souris par des analogies dans les structures de ces tératocarcinomes et de ce qu'on voyait dans l'embryon, notamment dans la masse interne.
John DeVos, on peut peut-être s'émerveiller un petit peu ensemble autour de ces cellules souches embryonnaires. C'est vrai que c'est fou de se dire qu'à partir d'un œuf fécondé, il y a tout un organisme complexe qui va se développer. Est-ce que vous pourriez nous les présenter, nous dire à partir de quand elles agissent, quelles sont un petit peu leurs fonctions et leurs capacités assez incroyables?
En fait, les cellules souches embryonnaires n'existe in vivo que de manière éphémère, presque, si vous vous souvenez de la définition qu'on a donnée tout à l'heure, elles ne sont pas strictement les cellules souches parce qu'elles vont pas s'auto-renouveler. Pourquoi? Elles vont très vite, dès la fin de la première semaine, enfin la deuxième semaine de développement embryonnaire, se spécialiser d'abord en trois feuillets primitifs qui ensuite vont donner tous les organes. Le cerveau, la peau, le foie, etc. Et donc, physiologiquement, on n'a pas un renouvellement de ces cellules qui sont capables de donner tous les tissus. En revanche, lorsqu'on transplante une partie de cet embryon à la fin de la première semaine, le blastocyste, in vitro, on...
Et on a perdu... On vous retrouve. Oui, on vous a retrouvé.
Et on est capable de les maintenir in vitro, de manière artificielle finalement. La boîte de Pétri, c'est complètement artificiel. Et ce sont les cellules souches embryonnaires. Donc ça, c'est ça la découverte fondamentale des années 80. C'est comprendre la physiologie de ces cellules et les capturer pour maintenir leur propriété in vitro, en laboratoire.
Et une dizaine d'années après, on a même mis en évidence le fait qu'il était possible de générer, Lucie Laplane, une souris à partir de cellules souches embryonnaires de souris. Donc le sens de tout ça, c'est quand même que les progrès et les découvertes en matière de cellules souches sont assez rapides. Et chaque décennie, finalement, apporte de nouvelles trouvailles. Là, en 92, on parle de la découverte d'un autre type encore de cellules souches, les cellules souches neurales. Ça, c'est par Sam Weiss aux États-Unis. À nouveau, à quoi correspondent ces cellules souches neurales?
Alors ça, sur les cellules souches neurales, je ne suis pas très calée.
Alors John DeVos, peut-être, sur ces cellules souches neurales, à quoi elles correspondent et quelle est l'importance de cette découverte-là dans l'histoire des cellules souches?
Les cellules souches neurales sont un compartiment cellulaire très rare, situé à la base du cerveau, mais qui physiologiquement sert surtout à renouveler des neurones qui sont importants pour l'odorat, et un petit peu d'autres secteurs, notamment la mémoire dans le cerveau, mais qui sont pas capables de régénérer un cerveau endommagé, par exemple, par un accident vasculaire cérébral. Mmh.
Si on poursuit Lucie Laplane, alors on parle de cellules souches neurales, cellules souches embryonnaires, cellules souches hématopoïétiques. D'autres cellules souches très importantes ont été découvertes dans les années 90, en 94 notamment. C'est les cellules souches cancéreuses. Là aussi, alors qu'est-ce qu'on a pu comprendre à partir de la découverte de cellules souches cancéreuses autour du développement et de la progression des tumeurs notamment?
Alors là, c'est intéressant sur l'ensemble de l'histoire de la biologie des cellules souches. Il y a très souvent un parallèle entre les cellules souches normales et les cellules souches cancéreuses. Dans le cas du système hématopoïétique, donc on a rappelé la première identification des cellules souches dans les années 60. Dans le même laboratoire de Toronto, c'est John Dick qui a mis en évidence la présence de cellules souches hématopoïétiques dans le tissu sain et dans les leucémies, avec une découverte majeure liée à l'arrivée des cytomètres, qui sont des appareils qui permettent de trier les cellules.
On peut rappeler un petit peu comment ça marche, ouais.
Alors le cytomètre, c'est une histoire assez intéressante parce que la machine a été d'abord inventée dans le cadre d'un projet porté par la NASA. L'objectif était d'identifier de la vie sur d'autres planètes avec un automate qui permettrait de trier et de
d'échantillonner un petit peu. Ouais.
Exactement. Bien sûr, le projet n'a pas fonctionné, il n'a pas abouti, mais il a été repris plus tardivement par des scientifiques qui ont réorienté le projet vers l'idée du tri cellulaire. Et cet outil permet donc, on met des échantillons de cellules, dans le cas des cellules hématopoïétiques, comme c'est liquide, on peut les mettre dans un fluide et ensuite on peut trier les cellules en fonction de marqueurs présents à la surface de ces cellules. Et donc ce cytomètre permet de trier les cellules en fonction de marqueurs et ensuite on a deux populations différentes qu'on peut tester fonctionnellement. Donc les travaux qui ont été faits par l'équipe de John Dee consistaient à trier les cellules les plus immatures possibles, les transplanter et voir leur capacité à générer ou pas les cellules hématopoïétiques dans un cas, les cellules leucémiques dans l'autre. Mmh. Et l'observation qui a été faite, c'était l'identification d'une sous-population qui était la seule capable de régénérer la leucémie en cas de transplantation, alors que toutes les autres cellules n'avaient pas cette capacité.
John DeVos, est-ce qu'on peut dire que la découverte de ces cellules souches cancéreuses a été un tournant dans l'histoire plus générale de la cancérologie et dans l'histoire de la compréhension des mécanismes liés au cancer ?
Oui, c'est un concept très important. Et pourtant, aujourd'hui, l'histoire n'est pas encore terminée. On a encore beaucoup de questions, notamment est-ce que les événements de cancérogénèse, c'est-à-dire les mutations dans l'ADN, ont lieu dans une cellule souche ou pas. Et dans tous les cas, ce qu'on sait, ce qui vient d'être dit, c'est que le clone tumoral va capter les propriétés des cellules souches, et notamment celles de l'autorenouvellement et de la prolifération. Mais aujourd'hui, alors, les enjeux sont fondamentaux, puisque s'il existe vraiment une population de cellules souches dans les cancers en général, il suffit d'éliminer cette population de cellules souches cancéreuses pour éliminer le cancer qui en découle. Mais ça n'a pas été formellement démontré, et il y a encore de très nombreuses recherches aujourd'hui là-dedans pour déterminer si effectivement on peut traiter spécifiquement et éliminer spécifiquement une population de cellules souches. Et vraisemblablement, ce sera une réponse qui sera apportée tissu par tissu, cancer par cancer.
Lucie Laplane.
Oui, et là on revient sur la difficulté de la diversité des cellules souches, parce qu'effectivement, quand le modèle a été établi dans le contexte des leucémies, on avait une hiérarchie avec des cellules souches leucémiques, seules capables de reproduire la leucémie. Et quand ce modèle a été testé sur d'autres formes de cancer, on s'est rendu compte que dans d'autres situations, on peut avoir plus de plasticité. Donc là où on a une hiérarchie rigide, où les cellules souches se différencient, il n'y a pas de retour en arrière dans le contexte du sang, on a en revanche, dans d'autres tissus, des cellules cancéreuses non souches, capables de redevenir à l'état souche. Et on voit que, encore une fois, ce qu'on appelle une cellule souche peut être des choses très différentes d'un tissu à un autre. Et ça a des conséquences majeures dans le contexte du développement de stratégies thérapeutiques contre le cancer. Puisque si on a une différenciation irréversible, on peut tenter de cibler ces cellules souches leucémiques pour essayer de traiter le cancer. Si en revanche le système est plastique et que la propriété souche peut être réacquise, cette stratégie sera peu efficace.
Et on verra bien évidemment tout à l'heure tous les nombreux enjeux et les nombreuses difficultés liées au développement de thérapies à base de cellules souches. Si on en revient un petit peu plus sur l'histoire récente de la découverte des cellules souches, John DeVos, dans les années 2000, on découvre tout un tas de cellules souches différentes, des cellules souches de la rétine, de la peau, etc. Est-ce que ça aide dans la catégorisation des cellules souches ? Est-ce qu'aujourd'hui on a une idée précise du bestiaire complet des cellules souches, ou bien est-ce qu'on peut s'attendre à en découvrir encore tout un tas?
Je pense que la principale conclusion de toutes ces recherches, c'est qu'à peu près chaque organe a ses cellules souches spécialisées, mais plus ou moins abondantes, plus ou moins efficaces si on veut les utiliser d'un point de vue thérapeutique. Et on pourrait aussi généraliser sur le fait que lorsqu'une personne est malade, l'organe malade n'héberge quasiment plus de cellules souches. C'est-à-dire que se pose quand même la question générale de où aller chercher de nouvelles cellules souches pour réparer un organe. Mmh. Et ça ouvre la porte évidemment à l'utilisation thérapeutique des cellules souches embryonnaires et des IPS. Mais donc les cellules souches qui sont résidentes dans les différents organes spécialisés, certaines sont très utiles, cellules souches sanguines, hématopoïétiques, mais d'autres beaucoup moins. Les cellules souches cardiaques par exemple sont rares et pas vraiment utilisables, en tout cas avec les connaissances d'aujourd'hui, pour réparer un cœur.
Lucie Laplane, si on prend un petit peu de recul sur l'histoire des sciences en général, qu'est-ce qu'on a compris, quel pas de géant on a accompli en un siècle à peine autour de la compréhension du développement cellulaire à partir de la découverte des cellules souches? Concrètement, voilà, quel changement de perspective ça a pu nous permettre d'opérer?
En fait, le changement de perspective, il n'est pas simple à identifier parce qu'en réalité, cette notion de cellule souche était déjà vraiment présente dès l'initiation de la théorie cellulaire. Et donc, en fait, ce qui s'est passé pendant le siècle et demi qui a suivi l'émergence de cette théorie cellulaire, c'est plutôt des preuves expérimentales qui ont permis de solidifier certaines hypothèses plutôt que d'autres et qui aussi ont abouti à cette observation qu'en fait, les cellules souches, il y en a une diversité avec des propriétés différentes en fonction des tissus, comme le disait John DeVos. Donc, il y a besoin d'avoir une compréhension localisée pour chaque tissu des cellules souches et de leurs propriétés.
John DeVos, vous partagez l'avis de Lucie Laplane. Finalement, on a confirmé certaines hypothèses émises dans le cadre de la plus générale de la théorie cellulaire. Mais là, maintenant, ce qu'on fait, c'est plus un travail de caractérisation précis et de compréhension de la fonction de ces différentes cellules souches.
Oui, tout à fait. Mais dans le domaine, encore une fois, de la médecine régénérative, finalement, le focus se met de plus en plus sur ces cellules souches pluripotentes qui ont des capacités beaucoup plus larges. Donc, il existe encore une recherche à la quête de cellules souches dans le cœur. Après, il y a d'autres applications, comme la peau. Là, effectivement, dès les années 70, les cellules souches de la peau ont été identifiées et des techniques pour amplifier la peau in vitro. Donc, ces cellules souches et toute la peau qui en découle ont été utilisées pour faire des greffes de peau. Et donc, c'est très spécifique, organe par organe.
Et on va y venir, bien évidemment, dans quelques instants à cette application et aux nombreuses applications potentielles en matière de thérapeutique liées aux cellules souches. Restez avec nous, ce sera juste après ça. The king in a woman in a red tail. The king in a woman in a red tail. Now I'm set up right on my bed today. The king in a woman in a red tail. The king in a woman in a red tail. The king in a woman in a red tail. Set a foot on my bed today. The king in a whole mile of red cells. Now I won't get a whole mile of red cells. Now I'm set a foot on my bed today. The king in a whole mile of red cells. Oh, there are times where good luck seems tight. Like coming home, so baby don't worry for me, and it'll be like coming home, so baby don't worry for me, and it'll be like coming home. Well baby don't worry. The things I do, sometimes they don't matter. The things I do, sometimes they don't matter, 'cause I never knew. Sometimes they don't matter. The things I do, and I won't get a hold of my little red cell. I won't get a hold of my little red cell. I won't set a fire on my bed today. When good luck seems high to find, it'll be like coming home. So baby, don't worry for me, and it'll be like coming home. So baby, don't worry for me, and it'll be like coming home. They don't worry. Little Red Cells par Oh Tiger Mountain dans Eureka sur France Culture. Nous parlons tout au long de cette heure de la découverte des cellules souches et nous en parlons avec Lucie Laplane, philosophe de la biologie chargée de recherche CNRS à l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ainsi qu'à Gustave Roussy. Nous sommes également avec John DeVos, professeur d'embryologie à l'Université de Montpellier et responsable de l'unité thérapie cellulaire au CHU de Montpellier. Alors après avoir parlé de la découverte des cellules souches, on en arrive aux promesses qu'elles soulèvent en matière de nouvelles thérapies. Écoutez cet extrait d'un journal télévisé de France 2, c'était en 2001.
Soigner des malades grâce à leurs propres cellules, ces chercheurs canadiens commencent à y croire. Leur espoir vient de ces souris adultes et plus particulièrement de leur peau. C'est là qu'ont été isolées des cellules souches. Ces cellules sont capables d'évoluer vers de multiples tissus, des muscles, des nerfs ou des tissus graisseux qui pourront réparer des organes malades. On trouve ces cellules souches chez l'embryon, mais beaucoup plus rarement dans un tissu adulte. Trouver des cellules souches et qui en plus peuvent facilement évoluer vers différents tissus, voilà notre grande surprise, c'est essentiel pour nous. Tout nous pousse à croire que ces mêmes cellules existent dans la peau humaine. Si leur présence est confirmée chez l'être humain, cette découverte constituera un espoir dans le traitement de nombreuses maladies, comme le diabète ou la maladie de Parkinson ou d'Alzheimer. Ces cellules, facilement accessibles, permettraient de traiter un malade avec ses propres tissus et donc sans risque de rejet, une nouvelle piste à explorer pour les chercheurs.
Nous ne savons pas ce que ça peut donner. Il est encore trop tôt, donc nous ne devons fermer aucune porte.
Autre avantage de cette découverte, elle n'exigerait pas d'expérimentation sur les embryons. En pleine controverse éthique sur ces manipulations, elle offrirait aux chercheurs une solution alternative, plus consensuelle.
Alors voilà, on en vient à cette page très importante en matière de cellules souches. John DeVos, peut-être pas mal de choses déjà dans cette archive qui vont un petit peu émailler notre discussion pendant toute la deuxième partie de cette émission. On en vient aux promesses thérapeutiques. Est-ce que, expliquez-nous un petit peu quelles sont les promesses majeures en matière de recours thérapeutique à des cellules souches et en quoi finalement c'est des modèles idéaux d'abord pour étudier certaines maladies.
Donc un des enjeux majeurs, c'est la médecine régénérative, c'est-à-dire pouvoir régénérer les organes abîmés par l'âge, par la maladie, par exemple le diabète. On sait le soigner en injectant de l'insuline, mais aujourd'hui on ne sait pas guérir le diabète. Hein. Donc on aimerait bien régénérer le pancréas pour qu'il refabrique de l'insuline. Donc que ce soit pour régénérer les différents organes atteints par la maladie, ou bien pour modéliser les maladies in vitro en laboratoire en boîte de pétri, les cellules souches sont vraiment le type cellulaire qui permet d'envisager tout ça.
Lucie Laplane, on parlait tout à l'heure des toutes premières applications thérapeutiques en matière de cellules souches, c'était des greffes de cellules souches. Alors pour les novices comme nous, qu'est-ce que c'est qu'une greffe de cellules souches, en quoi ça consiste globalement?
Ça dépend des cas, mais par exemple dans le cas de la transplantation du système hématopoïétique, l'idée est de transplanter des cellules souches hématopoïétiques afin qu'elles reconstituent le système hématopoïétique du patient.
Et concrètement, comment est-ce que ces cellules souches saines vont prendre le pas sur les cellules souches malades? Pourquoi les cellules souches saines vont-elles justement dominer et prendre la place des cellules malades?
Alors, dans le cas des leucémies, les patients sont d'abord irradiés, ce qui permet d'éliminer une grande partie des cellules malades, puis transplantées. Donc ça laisse aussi de la place pour que les cellules transplantées puissent se loger dans la moelle. Et ensuite, la raison pour laquelle la transplantation fonctionne réellement et prend le pas sur les cellules leucémiques, d'abord, c'est pas toujours le cas. Mm-hmm. Parfois, il y a des rechutes, malheureusement. Et une partie du succès semble également liée à la réaction immunitaire des cellules qui sont transplantées contre les cellules leucémiques.
John DeVos, ces greffes de cellules souches, c'est finalement peut-être l'un des secteurs médicaux ou de santé en tout cas, où l'application thérapeutique de cellules souches est devenue la plus fréquente. Vous évoquiez tout à l'heure le fait que dès les années 70, finalement, ces greffes de cellules souches, ou autrement nommées greffes de moelle osseuse, étaient devenues une pratique assez courante. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs médicaux où finalement ce recours aux cellules souches est devenu un petit peu une pratique de routine?
À part la greffe de moelle osseuse, très peu. Il y a la peau que j'ai citée tout à l'heure. Après, il y a des essais cliniques qui sont en cours. On pourra peut-être y revenir pour la rétine, pour le Parkinson, pour le diabète. Prometteur, hein, très prometteur, mais pas encore aujourd'hui en routine clinique.
Alors aujourd'hui, du coup, John DeVos, quelles sont les maladies les plus concernées par de potentielles thérapies à base de cellules souches? Vous avez déjà évoqué quelques grands noms de maladies, Parkinson. Est-ce qu'il y a d'autres maladies qui pourraient être concernées au premier plan?
Ouais, je dirais tous les organes peuvent être atteints par des pathologies qui vont soit abîmer les cellules, faire qu'elles ne fonctionnent plus, les cellules spécialisées de l'organe, hein, les cardiomyocytes par exemple sont les cellules musculaires spécialisées du cœur qui se contractent, qui le font, qui permettent d'expulser le sang, soit ces cellules disparaissent. Et dans tous ces cas, les médicaments sont ressources, c'est-à-dire que pour le moment on ne peut pas régénérer ces tissus qui ont été abîmés, et c'est là où les cellules souches sont la promesse de pouvoir régénérer ces organes. C'est les enjeux de la médecine régénérative. Donc ça c'est un sujet très important à la charnière du 20e, à la fin du 20e siècle, mais on bute sur la question de où est-ce qu'on va pouvoir venir se sourcer en cellules pour venir faire cette thérapie cellulaire.
Et alors c'est là qu'apparaissent les fameuses cellules souches pluripotentes induites, les fameuses cellules IPS. Peut-être qu'on peut, avant d'en parler, écouter une autre archive, cette fois qui date de 2012. C'était le prix Nobel de médecine qui était remis aux découvreurs des cellules souches pluripotentes induites.
Un biologiste britannique et un médecin japonais ont reçu conjointement le prix Nobel de médecine. Ils ont été récompensés pour leurs recherches sur les cellules souches. Grâce à eux, il est désormais possible de créer tous les types de tissus du corps humain. Viviane Jungfer et Eric Béra nous expliquent en quoi cette découverte est révolutionnaire.
Alors que le japonais n'était pas encore né il y a 50 ans, le britannique John Gurdon découvrait que l'ADN d'une cellule adulte peut se transformer en toutes sortes de cellules. Et il y a seulement 5 ans, Shinya Yamanaka a compris le mécanisme de cette transformation. En associant à des cellules adultes des facteurs de reprogrammation précis, il a réussi à obtenir des cellules souches pluripotentes, dites IPS, capables de se renouveler à l'infini ou de se différencier en n'importe quel tissu de l'organisme, œil, cœur ou cerveau. Des IPS qui remplacent les cellules souches embryonnaires qui posent toujours des problèmes d'éthique.
Ce sont des cellules qu'on peut, entre guillemets, industrialiser, dont on peut industrialiser la production. On peut avoir des usines dans lesquelles on va produire des centaines de milliards de cellules qui sont nécessaires au traitement de malades, quel que soit leur nombre.
Diabète, maladies neurodégénératives, maladies rares, maladies cardiovasculaires, ces cellules souches IPS ont un champ d'action potentiel infini. Les premiers essais cliniques portent sur la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA. Ils débuteront d'ici quelques mois au Japon.
Voilà, encore une grande étape de franchie dans la découverte, dans l'histoire des cellules souches. Lucie Laplane, une réaction à ces travaux qui ont été récompensés en 2012 du prix Nobel?
Oui, alors en fait, je vais revenir en arrière. J'ai dit que sur le siècle et demi, il n'y avait pas eu de changement théorique majeur. En fait, il y en a quand même un qu'il faut absolument mentionner. C'est l'idée de la différenciation et des différenciations. Jusqu'à John Gurdon, il y avait vraiment une idée très forte que la différenciation n'était pas réversible. Donc une fois qu'une cellule souche s'engageait dans la différenciation, il n'y avait pas possibilité de revenir en arrière. Ce qui veut dire que si on perd les cellules souches, c'est perdu pour toujours. Et avant John Gurdon, il y a eu plusieurs expériences qui ont été faites et qui n'avaient pas abouti et qui avait mené à la conclusion que la différenciation était bien irréversible. Donc là, on avait les premières preuves expérimentales qu'une cellule différenciée peut bien être reprogrammée en cellule souche, ce qui a eu un impact majeur, même si ça a pris énormément de temps à être pris en considération par la communauté scientifique.
John DeVos, une réaction à cette archive que je vous proposais d'écouter, et puis à ces travaux-là qui ont quand même, quand on y réfléchit, un petit côté un peu miraculeux. On se dit, bah voilà, une cellule souche qui est adulte peut redevenir un petit peu une cellule souche pluripotente. Expliquez-nous un petit peu comment, d'un point de vue concret, technique, ces chercheurs comme Shinya Yamanaka s'y sont pris pour mettre des cellules souches comme s'ils remettaient les compteurs à zéro, finalement.
Oui, c'est ça, c'est vraiment révolutionnaire. Et les travaux à l'époque ont vraiment suscité d'abord un petit peu des doutes. Mmh. Et ensuite, on a bien vu que c'était quelque chose de reproductible. Comment est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement pris des gènes. Alors, vous savez, notre ADN est constitué d'environ 20 000 gènes qui nous permettent de faire fonctionner nos cellules de manière différenciée. Les gènes utilisés par la peau sont pas les mêmes que ceux du foie. Et il a regardé parmi les gènes les plus importants pour les cellules souches embryonnaires. Et il en a identifié une vingtaine. Et il les a activés dans des cellules de la peau. Et il a identifié un cocktail minimal de 4 gènes qui suffit de réactiver. Ils sont endormis dans la peau, ils ne sont pas utilisés par la peau. Il suffit de les réactiver pour que les cellules passent d'un statut de peau en cellules pluripotentes de type embryonnaire. Alors, on n'appelle pas ces cellules embryonnaires pour éviter l'écueil de l'éthique, mais en réalité, elles ont vraiment une biologie de cellules souches embryonnaires. Hein. C'est une biologie identique. Et alors, on les appelle IPS pour éviter cet écueil éthique.
Alors, John DeVos, justement, vous soulevez la question éthique. Pourquoi est-ce que dès l'instant qu'on parle de cellules souches embryonnaires et de recours à ces cellules souches embryonnaires dans le cadre de traitements particuliers, la question éthique devient particulièrement sensible?
Tout simplement parce que donc ces cellules souches embryonnaires sont issues du blastocyste, qui est l'embryon à la fin de la première semaine du développement. Il faut s'imaginer une sorte de petit ballon de football de un dixième de millimètre de diamètre, avec qui comporte une centaine de cellules. C'est vraiment tout petit. C'est encore complètement indifférencié, mais ça a des capacités extraordinaires puisqu'elles vont générer le fœtus qui va donner le bébé, etc. Mais si on veut extraire les cellules souches embryonnaires de ce blastocyste, eh bien il faut détruire le blastocyste. Donc on va détruire des embryons humains. Et donc vous savez qu'il y a il y a des personnes qui sont absolument opposées à la destruction de l'embryon humain, quelle qu'en soit la cause. Et donc ça va les cellules souches embryonnaires vont générer des questionnements éthiques. Est-ce qu'on peut ou pas utiliser des cellules qui ont demandé la destruction d'un embryon en amont?
Alors du coup, que dit la loi, par exemple, en France? Il y a eu une loi française de bioéthique en 2013, puis en 2021. La recherche est strictement encadrée autour des cellules souches embryonnaires. Comment fonctionne cet encadrement-là?
Disons que la loi française rend la discussion éthique autour des cellules souches embryonnaires assez confortable, dans la mesure où elle n'autorise une recherche sur l'embryon humain, et donc en dérivé des cellules souches embryonnaires, que sur des embryons qui ont été conçus dans le cadre d'une fécondation in vitro, donc d'une aide à la procréation médicale, donc dans un but de reproduction, mais pour lesquels, à un moment donné, il n'y a plus de projet parental. Alors ça peut être parce que les parents ont eu suffisamment d'enfants, parce que l'embryon est de mauvaise qualité, par exemple porteur d'une mutation génétique. En tout cas, il n'y a plus de projet parental. Donc l'embryon est voué à être détruit. Il y a comme ça des milliers d'embryons chaque année qui sont conçus et qui finalement seront voués à être détruits. Eh bien, la loi française autorise dans ce cas-là, après autorisation des parents, à ce que ces embryons soient donnés à la recherche et à ce moment-là, ils peuvent être détruits pour fabriquer des cellules souches embryonnaires. Donc, c'est assez confortable. On se pose pas la question de créer un embryon pour la recherche. En France, ça, c'est strictement interdit. Mmh. Dans d'autres pays, c'est permis.
Et Lucie Laplace,
je pense aux États-Unis.
Oui. Et Lucie Laplane, on parlait aussi des cellules souches pluripotentes induites, les cellules souches IPS. Justement, là, elles viennent un petit peu, elles permettent de se substituer à ce recours complexe et éthiquement très encadré aux cellules souches embryonnaires. Dans quel cadre, pour quel type de maladie, justement, on va avoir recours aujourd'hui à des cellules IPS? Ou en tout cas, quels sont les espoirs autour de ces cellules souches IPS?
Alors, les cellules souches IPS sont utilisées dans des contextes extrêmement variés. Elles peuvent être utilisées, par exemple, dans des contextes de recherche fondamentale. Par exemple, en cancérologie, on peut utiliser des cellules reprogrammées issues de patients pour pouvoir modéliser la maladie in vitro en laboratoire. Ça permet de ne pas avoir à revenir échantillonner le patient à chaque fois qu'on a besoin de cellules. Et ça permet de refaire des expériences sur le long terme à partir d'un échantillon qui a été reprogrammé. c'est une des applications de cette technologie, par exemple.
John DeVos, c'est très intéressant ce que souligne ici Lucie Laplane, c'est le fait que, certes, on parle beaucoup des applications potentielles des cellules souches, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a tout un travail de recherche fondamentale à mener en amont, et que ce travail de recherche fondamentale, il peut être justement facilité par des travaux sur des cellules souches.
Complètement. C'est aujourd'hui, je dirais, la première application. De très très nombreux laboratoires dans le monde utilisent les IPS pour modéliser des tissus, le développement d'un tissu, d'un organe, des maladies in vitro, hein, encore une fois en laboratoire.
C'est une sorte de modèle idéal, on va dire.
Oui, parce qu'on peut... par exemple, je reprends l'exemple du cœur. On peut faire, c'est difficile, mais on peut faire une biopsie de cœur. Mais si vous mettez ce petit morceau de biopsie de cœur en culture, eh bien, il se passera rien. Les cellules vont mourir et disparaître. Grâce aux cellules souches de type IPS, eh bien, vous pouvez créer in vitro du cœur qui va avoir une activité spontanée de contraction et sur lequel vous allez pouvoir étudier des mutations génétiques anormales, pouvoir tester des nouveaux médicaments, voire pourquoi pas tester de la médecine régénérative en y apportant des cellules souches.
Lucie Laplane.
Un des avantages de cette technologie est lié au fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à maintenir en culture les cellules souches adultes. Donc, par exemple, dans le système hématopoïétique, on ne sait pas maintenir les cellules souches hématopoïétiques en culture sur le long terme. Les IPS permettent d'avoir un accès à une production de ces cellules-là.
John DeVos, j'ai l'impression que l'actualité autour des cellules souches, en tout cas l'actualité des découvertes autour des cellules souches, est quand même assez foisonnante. Il se passe quasiment pas 6 mois sans qu'il y ait des nouvelles annonces qui soient faites. Est-ce que dans les dernières années, il y a des éléments, vous, qui vous ont particulièrement marqué, qui vous intéressent au premier plan et qui vous font avoir beaucoup d'espoir, notamment en matière de développement de nouvelles thérapies?
Oui, il y a eu par exemple le cas de la maladie de Parkinson avec quelques patients, mais attention, j'attire l'attention sur le fait que c'est uniquement une poignée de patients avec des protocoles différents qui ont pu bénéficier d'une thérapie de traitement de maladie de Parkinson avec des cellules dérivées d'IPS. Des premiers résultats encourageants, mais avant de pouvoir conclure que c'est la solution, il faudra encore de nombreuses années multiplier les essais cliniques, les élargir à une population plus grande. Un exemple qui m'a frappé récemment au congrès international de recherche sur les cellules souches à San Francisco, là au mois de juin, c'est un patient qui a reçu des cellules qui fabriquent de l'insuline à partir de cellules souches embryonnaires et qui reste, alors qu'il était atteint d'un diabète très très instable, qui reste sans insuline au 240e jour après l'injection de ces cellules. Donc là aussi, des résultats très encourageants.
Lucie Laplane, le diabète, c'est quand même un enjeu de santé publique mondiale. Là, on voit un petit peu s'entrouvrir une porte concernant une maladie qui touche de plus en plus de monde. Est-ce qu'il y a d'autres domaines de santé publique où les cellules souches pourraient devenir un recours courant, récurrent?
C'est vraiment difficile à prédire. Je pense qu'un des enjeux majeurs pour qu'il y ait plus d'applications va être de comprendre aussi le rôle du tissu dans lequel on va injecter ces cellules. Parce que les cellules souches, dans les tissus adultes, la plupart des cellules souches ont des relations avec leur micro-environnement. La localisation où elles se trouvent est très importante. Et donc si l'environnement lui-même est pathologique, ça rend difficile le fait de pouvoir mettre en place ce type de thérapie. Donc comprendre l'environnement, comprendre comment faire implanter ces cellules souches va être un enjeu majeur pour l'avenir.
John DeVos, du coup là on touche un petit peu aussi du doigt les limites pour l'instant auxquelles on se confronte en matière de développement de thérapie à base de cellules souches. Lucie Laplane évoquait à l'instant l'environnement, l'écosystème des cellules souches qui est différent selon qu'on l'étudie de façon un petit peu fondamentale au laboratoire et puis dans un organisme vivant. Quels sont, selon vous, voilà, les autres limites principales aujourd'hui au développement de thérapies à base de cellules souches? Est-ce que c'est aussi des limites de coût, des limites économiques, des limites techniques?
Alors, il y a les limites de coût, ça c'est clair. Deux premiers patients dont un seul a été injecté au Japon pour un traitement de rétine, on a estimé que le coût de ce traitement était de l'ordre de 500 000 euros. Alors les coûts vont diminuer avec le temps, avec une industrialisation, mais ça reste quand même des coûts très importants. Mais je dirais que le plus gros obstacle, il a été complètement sous-estimé. D'abord, il y a eu le concept de la médecine régénératrice. Ensuite, on s'est dit, ah, il faut trouver la source de cellules. Ça a été la chasse aux cellules souches, avec les IPS qui viennent de conclure finalement. Et on a maintenant une source cellulaire parfaitement définie qui peut produire tout ce qu'on veut en termes de cellules. Mais le dernier obstacle, et c'est sans doute le plus gros, c'est comment, et ça vient d'être dit par Lucie Laplane, comment réinjecter ces cellules pour qu'elles viennent intégrer, réparer les organes. Et si on reprend de nouveau, si on file l'image du cœur, eh bien, comment est-ce qu'on va pouvoir réparer un cœur après un infarctus du myocarde? Et on pense que c'est pas aussi simple que juste injecter quelques cellules cardiaques dans le cœur. Il va falloir trouver autre chose. Peut-être qu'il va falloir un petit peu abîmer l'endroit du cœur qui a été atteint par l'infarctus pour que les nouvelles cellules viennent s'y intégrer et réparent vraiment le cœur. Oui, il y a une difficulté à réinjecter les cellules au bon endroit.
Lucie Laplane, finalement, là, on touche à nouveau peut-être du doigt la complexité à mettre en place ce qu'on appelle de façon peut-être plus générale une médecine personnalisée, une médecine adaptée à chaque individu, à chaque organisme et à chaque fonctionnement d'organisme.
Oui, effectivement, donc là, on revient en fait sur plutôt que le problème de la médecine personnalisée, là c'est plutôt la compréhension de chaque tissu, de ses spécificités et de chaque cellule souche dans chacun des tissus qui va être le point majeur.
John DeVos, pour conclure, on peut quand même se réjouir de la découverte de ces cellules souches, même s'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Là on parle quand même moins d'un siècle de découverte et quand même d'avancées assez majeures.
Oui, on est entièrement d'accord. Les perspectives thérapeutiques et donc de médecine régénératrice avec les IPS sont absolument colossales. Et c'est vraiment l'enjeu des années à venir. Avec les premières applications que j'anticipe dans moins de 10 ans, avec un agenda qu'on connaît pas encore, mais qui va de manière certaine se dérouler sous nos yeux.
Et on peut vous faire confiance pour avancer, pour participer activement à cette recherche et à ces mises au point de nouvelles thérapies en matière de cellules souches. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux, Lucie Laplane et John DeVos, de nous avoir accompagnés à la source de ces cellules souches. Merci également aux équipes de France Bleu Héros à Montpellier pour le duplex.
Any weapon formed against me can't prosper. Imposter, I'ma fill him with lead. My best friend like Tommy Lee Sparta. I'm in the Gaza just tryna get bread. The Chinese wanna take away Niger. Most of my people, they struggle and stress. Political corruption, I rise up until the reign of government left. Cost to be the boss, even on finance, the man couldn't afford it. 15, mummy found my shank and I nearly got shipped. I was gonna do boarding. I had a one light E from Pex and a 10-10 Europa Bay from Shoreditch. If you got a body like Uche, text me and I'ma pay your father's mortgage. Listen, I'ma pay your uncle's rent. And if rap don't pay, then we would've been getting it off of crack cocaine. I don't know how man could chat so brave. Little nigga, you ain't bad, no way. I think me, women and Italian shoes work well together like Maggie and Cube. Pretty in pink, but she better in blue. If you and me, you'd be arrogant too.
Oh yeah, but what the jack up?
Lazarus par Dave pour clore en musique cette émission. Un grand merci à toute l'équipe de Reka, Alexandra Delbo, Mariam Ibrahim, Loïc Dutois, Garance Prema Agnolo, David Jakuboviez à la réalisation accompagné de Sam Bakiast. À la technique aujourd'hui, c'était Hugo Renard. Vous pouvez, comme chaque jour, réécouter cette émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. On se retrouve bientôt dans le grand bain de Reka. Et d'ici là, n'oubliez pas, tout reste à découvrir.
How she make a clap is a mystery. I see a pastor say, Jesu Christi. I see a man say, Christ of Nazareth. Ayo, ayo, pum pum, so fabulous. First round, I thought I was dead, but it brought man back to life like Lazarus. The way she back up the Sutton and just park it. You don't need mirrors and cameras. I've been getting money in from long time. The first rat that he made was Lamina.
Chloé.
Oui.
T'es bien? Je vais te montrer les étoiles.
Moi, les étoiles, je suis pas contre. Surtout si ça me fait aller me coucher plus tard.
Le premier podcast France Culture, Savoir et Science, dédié à la jeunesse. Les mondes de Chloé, le nez en l'air et la tête dans les étoiles. Histoire de grandes et petites ours, entre fiction et astronomie. La première saison consacrée au ciel et aux constellations. Les mondes de Chloé, à la belle étoile, par Alice Buteau et Charlotte Roux, sur franceculture.fr et l'appli Radio France.